Je vous invite à prier. Notre Seigneur, je te remercie encore pour ces moments qu'on peut passer ensemble. Comme disait Jean tout à l'heure, c'est un privilège que nos frères et sœurs persécutés ne peuvent pas vivre de la même façon. Ils ne peuvent pas se retrouver aussi nombreux, aussi publiquement. Et nous te remercions pour ce privilège. Et Seigneur, nous te remercions aussi pour le privilège de ta parole, de la Bible qui nous a été transmise par tes apôtres et qui aujourd'hui encore nous enseigne ta volonté, nous enseigne qui tu es, qui nous sommes et comment nous pouvons agir dans notre vie. Et je te prie Seigneur que voilà, tu nous aides ce matin à entendre ta voix. Amen. Alors, je vous propose, avant de commencer, de fermer les yeux. Je vois vos pupilles. Fermez les yeux, fermez les yeux. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Ah, rien. Alors, vous pouvez les rêver, c'est bon. Alors, ce matin, nous allons parler des ténèbres et de la lumière. Donc, quand on a les yeux fermés, en effet, on ne voit pas grand-chose. Mais... quand on a les yeux ouverts, on a la lumière qui éclaire tout autour de nous. Pierre va dire dans 1 Pierre 2,9 que nous avons été appelés des ténèbres à son admirable lumière, donc l'admirable lumière de Christ. Et donc, voilà, on a cette idée qu'avant on était dans les ténèbres et maintenant dans la lumière. Alors, voilà, on peut se poser un peu la question, qu'est-ce que ça veut dire ce contraste entre lumière et ténèbres? On peut s'imaginer beaucoup de choses. Dans la culture d'aujourd'hui, on utilise souvent comme une métaphore du bien et du mal, un peu comme une représentation un peu manichéenne des choses, un contraste absolu entre le bien et le mal. En tout cas, quand on parle de lumière et de ténèbres, en tout cas, il y a une incompatibilité de nature. On ne peut pas avoir et de la lumière et des ténèbres. Il peut au mieux rester quelques zones d'ombre, il peut y avoir peut-être du pénombre, mais en tout cas, lumière et ténèbres sont incompatibles. La semaine dernière, Christophe nous a parlé d'Éphésiens 4, où le titre de son message c'était « Une nouvelle identité pour une nouvelle vie ». Et donc il nous a parlé de l'ancienne nature de qui nous étions, ce que nous étions avant notre rencontre avec Christ, et cette nouvelle vie qui entraîne des nouvelles façons de faire. Et Paul va continuer dans Éphésiens 5, donc ce que nous allons lire ce matin, en prenant l'image des ténèbres et de la lumière, pour nous apporter un angle différent sur cette même réalité. Donc cette même réalité qu'il y a un avant et un après. Et donc, nous allons relire les versets 1 à 5 qu'on a pu lire la semaine dernière, et on continuera jusqu'au verset 20. Imitez donc Dieu, comme des enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour, tout comme le Christ aussi nous a aimés, et s'est livré lui-même à Dieu pour nous, en offrande et en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur. Ça, c'est les choses que François nous a rappelées aussi par rapport à la scène. Que l'inconduite sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes, ou l'avidité, ne soit pas même mentionnée parmi vous, comme il convient des saints. Pas de choses choquantes, pas de propos extravagants, pas de bouffonnerie, cela est malséant, mais plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun de ceux qui se livrent à l'inconduite sexuelle, à l'impureté ou à l'avidité, c'est-à-dire à l'idolâtrie, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Que personne ne vous trompe par des discours vides, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les rebelles. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres. Mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Vivez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Sachez discerner ce qui est agréé du Seigneur et ne vous associez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dévoilez-les. En effet, ce qu'ils font en secret, il est choquant même d'en parler. Et tout cela, une fois dévoilé, est rendu manifeste par la lumière. Car tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi il dit, Veillez donc avec soin à la façon dont vous vous comportez. Que ce ne soit pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ne soyez donc pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, il mène à la débauche. Au contraire, soyez remplis par l'Esprit. Parlez-vous par des cantiques, des hymnes et des chants spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à celui qui est Dieu et Père. Et donc ce matin, je vous propose de réfléchir ensemble à ce contraste des ténèbres et de la lumière dans notre vie. Avant de passer un peu de temps à réfléchir à ce que veut dire vivre dans la lumière avec l'Esprit. Alors d'abord, on va s'intéresser aux ténèbres. Que sont ces ténèbres desquelles on a été tiré? Avant de voir maintenant que nous sommes dans la lumière, et donc la question, que veut dire marcher dans la lumière? Et enfin, nous verrons quelle est notre relation à avoir avec les ténèbres. Et donc, voilà, je vous propose de commencer avec les ténèbres. Voilà. Donc, et je pense que c'est un endroit pour commencer, puisque pour parler de lumière, il est utile de parler de son inverse, des ténèbres. Et donc, notre passage, qui va nous parler de marcher avec la lumière, s'appuie en effet sur cette notion des ténèbres, une description de ce que sont les ténèbres. Donc tu peux passer. Donc, dans les versets 3 à 5, on a cette description. Et avec une courte liste d'actes appartenant aux ténèbres, je pense qu'on est d'accord que ce n'est pas exhaustif. Mais là, Paul nous parle de l'inconduite sexuelle, de l'impureté, d'avidité, de choses dont on ne devrait même pas parler. Et bon, là vous avez sûrement remarqué que Paul en parle. Donc voilà, forcément, quand on dit ne pas en parler, ça ne veut pas dire ne pas les mentionner. Mais ça veut dire que ce sont des sujets dont il ne faut pas plaisanter, qu'il ne faut pas traiter légèrement. Et c'est, voilà, c'est rendu plus clair avec le verset d'après où Paul dit d'éviter les grossièretés, les blagues douteuses et ainsi de suite. Et donc voilà, c'est ça que ça veut dire ne pas parler de ces choses. C'est ne pas en faire un sujet de conversation banal, rigolo et ainsi de suite. Et le verset 5 vient apporter une sentence terrible à la fin de cette liste d'actes mauvais. Ces actes de ténèbres sont idolâtrie. Alors qu'est-ce que c'est qu'une idolâtrie, qu'une idole? Ce sont des choses qui remplacent Dieu. Et donc ces actes de ténèbres ne sont pas juste mauvais en soi, c'est pas juste que c'est contre la morale de Dieu, pas juste que c'est en dehors de son plan, de sa sainteté, mais ils sont mauvais aussi parce qu'ils cherchent à remplacer Dieu. L'inconduite sexuelle, c'est mon plaisir, quand je veux. L'impureté, c'est, voilà, ce qui compte, c'est mes envies, peu importe des règles. L'avidité, la soif de posséder, c'est mon confort, mes choses, ma vie. Et donc, ces choses, c'est foncièrement être tourné sur soi plutôt que vers Dieu. Et donc, cette sentence, ces choses sont idolâtrie. Et pire encore, l'idolâtre, donc celui qui pratique ces choses, n'a aucun héritage dans le royaume de Dieu. Et le verset 6 est là encore pour ceux qui voudraient nier la gravité des choses. Et c'est vrai que, voilà, quand on regarde le monde autour de nous, ben, la Bible n'est pas en accord sur beaucoup de sujets, sur la pureté, la fidélité dans le mariage, la générosité, l'indépendance aux biens matériaux. Voilà. C'est des choses où la Bible et le monde sont en désaccord. Et donc, il y aura toujours des personnes qui voudront nier la morale de Dieu, ou qui voudront l'assouplir, voudront, disons, mieux s'intégrer dans la société. Et ça, ça peut arriver même dans l'Église. Et donc, Paul nous donne un avertissement. N'écoutez pas ces personnes. N'écoutez pas ces discours vides qui voudraient assouplir la règle de Dieu en disant que c'est pas si grave que ça. En effet, la colère de Dieu est réelle. Et cette colère vient du fait que Dieu est contre le péché sous toutes ses formes. Et ceux qui se complaisent loin de lui, dans le péché, ces rebelles seront jugés. Et donc, c'est un constat dur sur les ténèbres. Des actes mauvais, des personnes insoumises à Dieu, une séparation totale d'avec lui. Et donc, il est bon, là, de s'arrêter et de se poser la question. Où est-ce que je me situe? Tout homme, de base, est pécheur, fait partie de ce monde des ténèbres. Et si vous ne vous êtes pas repenti de votre vie égoïste, sans Dieu, vous êtes toujours dans ces ténèbres. La colère de Dieu est sur vous. Si par contre vous vous êtes tourné vers Dieu, il y a ce beau message du verset 8. Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Et donc, grâce à Jésus, nous pouvons être dans la lumière. Nous pouvons être arrachés de ces ténèbres où nous étions. Et donc, il y a deux possibilités aujourd'hui. Soit vous êtes toujours dans les ténèbres, soit vous êtes passé dans la lumière de Dieu. Il n'y a pas de zone grise. Et donc, maintenant on peut se poser la question, que signifie être dans la lumière? La base d'être dans la lumière, c'est donc d'être dans le Seigneur. C'est ce que dit ce verset 8. Sans Jésus, sans lui, sans son action dans notre vie, nous serions encore dans les ténèbres. Nous ne verrions toujours rien. C'est lui qui a éclairé nos yeux pour que nous puissions voir. Et Paul va continuer avec un mot d'ordre global, dans la suite du verset 8. Il va dire de vivre comme des enfants de lumière, de marcher comme des enfants de lumière, de nous conduire comme des enfants de lumière. Et c'est ça le mot d'ordre global. Si on est dans la lumière, agissons en conséquence. Et peut-être que vous pouvez vous dire, ça peut sembler évident. Si on est dans la lumière, on fait des choses de lumière. Mais ce n'est pas toujours si évident. D'abord, je pense que... parce qu'il y a des fausses compréhensions. Beaucoup de personnes accusaient Paul de dire que si nous sommes sous la grâce, qu'on peut pécher autant qu'on veut et que la grâce couvrira. Et donc, voilà, Paul va argumenter contre ça dans Romains 6, par exemple. Mais voilà, on peut se faire cette idée de la grâce comme quelque chose qui couvre tout. Et donc, finalement, marcher dans la lumière, c'est pas si important que ça. Un autre aspect qui fait que c'est peut-être pas si évident que ça, c'est que si nous examinons notre vie, je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire que, voilà, quand on regarde, la marche dans la lumière, c'est une réalité que nous ne vivons pas encore pleinement. Que tout comme, voilà, ce que disait Christophe tout à l'heure, la semaine dernière, notre nouvelle nature, nous ne vivons pas toujours en adéquation, la lumière, nous ne vivons pas toujours en adéquation avec elle non plus. Et donc nous avons besoin de ce rappel, qu'on nous rappelle que maintenant nous sommes de la lumière et que cela change comment nous vivons. Alors du coup, Paul va continuer en nous aidant à comprendre qu'est-ce que ça veut dire marcher comme un enfant de lumière. Donc d'abord, porter les fruits correspondant à notre nature. Ici, ce que Paul appelle les fruits de la lumière. Et donc là, il ne parle pas explicitement des fruits de l'esprit. On voit que c'est voilà, des choses un peu différentes de la liste qu'on connaît de Galates 5:23. Mais là, en tout cas, on a trois fruits qui sont des caractéristiques de Dieu. Des choses reflétées déjà dans la nature de Dieu et comment il agit avec nous. On a la bonté, qu'on retrouve d'ailleurs dans les fruits de l'esprit, qui parle de notre attitude envers les autres et qui doit refléter la bonté que Dieu a pour nous. Ce Dieu si bon, si miséricordieux, qui est venu nous chercher, qui veut notre bien. C'est ça la bonté de Dieu. Et donc, quelle est notre bonté en conséquence autour de nous? Est-ce que nous reflétons cette bonté incroyable de Dieu? Ensuite, il y a la justice. Dieu est un Dieu juste qui juge en fonction des actes, mais qui, dans sa bonté, a envoyé Jésus pour nous. Et donc, avec ce jugement qui pesait sur nous à cause de nos fautes, à cause des faits que nous étions dans les ténèbres, Dieu, par sa bonté, a fait tomber ce jugement sur Jésus. Mais il reste juste. Et nous aussi, nous devons refléter cette justice dans nos actes, dans comment nous vivons, dans comment nous... Voilà. Dans tout ce que nous faisons dans notre vie. Ensuite, il y a la vérité. Dieu est vrai. Ce qu'il dit est vrai. Ses promesses sont véritables. Et donc, nous aussi, nous devons refléter cette vérité. Nous devons dire des choses vraies. Nous devons être vrais, ne pas être hypocrites. C'est ça, être vrai. Donc, voilà, on a ces fruits, la bonté, la justice, la vérité. Paul, quand il dit son verset, il dit « toutes sortes de bonté, de justice et de vérité ». Donc, voilà, on entend encore une fois que les fruits de la lumière ne sont pas limités à ça. Et on pourrait tout à fait mettre les fruits de l'esprit là-dedans aussi. Mais Paul va continuer, peut-être, en revenant un peu sur la base de qu'est-ce que c'est que marcher dans la lumière. Au verset 10, il va nous dire de chercher ce qui est agréé du Seigneur, de savoir discerner ce qui lui plaît. Et donc, c'est ça peut-être le plus important. Je pense qu'on est d'accord que la bonté, la justice, la vérité, elles plaisent à Dieu. Et donc, si on veut savoir qu'est-ce que c'est que de vivre dans la lumière, que de marcher dans la lumière, il faut revenir à qu'est-ce que Dieu veut. Comment connaître les fruits de la lumière, ou même comment connaître les œuvres des ténèbres, si on ne sait pas qui est Dieu, ce qui lui plaît. Et il est vrai qu'il y a des domaines où c'est pas toujours évident de savoir quelle est la volonté de Dieu. Par exemple, parce que la Bible n'en parle pas spécialement, notamment parce que c'était des choses qui n'existaient pas encore, par exemple. Et du coup, qu'il faut appliquer les principes bibliques à de nouvelles situations. Un exemple peut-être facile, où là du coup la réponse est aussi facile, la pornographie qui n'existait pas à l'époque de Jésus. La Bible n'en parle pas. Mais elle parle beaucoup des relations hommes et femmes, et donc, voilà, c'est tout ce cadre-là qui nous permet de dire que ce n'est pas quelque chose qui plaise à Dieu. En tout cas, il ne faut pas s'arrêter à ce qu'on pense connaître de Dieu, à ce qu'on nous a dit, mais nous devons chercher à discerner, à comprendre, à vraiment réfléchir à ce que Dieu veut. Et c'est ainsi, si on sait qu'est-ce que ça veut dire, si on sait ce qui plaît à Dieu, là nous pourrons marcher dans ses voies de lumière et ne pas marcher dans ses voies, les voies des ténèbres. Alors du coup, on reparle des ténèbres. Maintenant que nous sommes dans la lumière, quelle doit être notre relation avec les ténèbres? Ces ténèbres auxquelles nous appartenions et desquelles nous avons été retirés. Donc, notre ancienne vie, notre ancienne nature, mais aussi les personnes qui sont toujours dans les ténèbres. Et Paul va nous inviter à deux actions. Donc, au verset 7, Paul, après avoir parlé des ténèbres et avoir rappelé la colère qui est en attente pour les rebelles, Paul va dire de n'avoir aucune part avec eux. Il va inviter à ne pas s'associer aux personnes dans les ténèbres, à ne pas être partenaire. Et donc, on peut se demander, est-ce que ça veut dire n'avoir aucun contact? Christophe l'a aussi dit la semaine dernière, bien sûr que non. Non seulement ce serait relativement difficile, il y aura toujours eu des ermites au milieu de nulle part, ça c'est une façon pour être vraiment éloigné de tout le monde. Mais bon, c'est pas ce que Dieu nous appelle à faire non plus. Entre autres, parce que avoir un témoignage est difficile si on n'a personne à qui témoigner. Comment les gens verront comment nous agissons si nous ne vivons pas avec eux? Mais voilà, on peut peut-être faire le parallèle avec le psaume 1. Heureux l'homme qui ne suit pas les projets des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas parmi les insolents. Ou 1 Corinthiens 15, 33, qui cite, je pense, un proverbe, « Les mauvaises compagnies pourrissent les bonnes mœurs. Et donc là, peut-être le plus important ici, c'est de ne pas s'associer aux pratiques des ténèbres. Ne pas les encourager. Ne pas les accepter tacitement. Voilà, une question qu'on peut se poser. Est-ce que nous écoutons avec intérêt les récits d'immoralité sexuelle de nos collègues qui racontent, voilà, pas autour du café ou les choses comme ça? Est-ce que nous partageons avec nos amis chrétiens les dernières nouvelles croustillantes des gens qu'on connaît, mais en disant que c'est pour montrer le péché? Voilà. Est-ce qu'on a des attitudes, on va dire un peu de complaisance, d'intérêt pour ces actes mauvais? Est-ce que quand on lit, voilà, faits divers, croustillants, est-ce que, voilà, est-ce qu'on en est attristé ou est-ce qu'on est là parce que c'est intéressant? Donc, voilà, ne pas s'associer aux pratiques des ténèbres. D'un autre côté, c'est aussi se préserver de l'influence de personnes qui s'adonnent à de telles pratiques. Là, c'est l'important de se connaître, de savoir, voilà, où sont nos faiblesses, où sont les pratiques voilà, qui nous donnent envie, qu'on a vécues dans notre passé et qui sont toujours là, un peu en pierre d'achoppement. Et il faut regarder lucidement autour de nous et voir si des personnes sont des mauvaises influences dans notre vie. Et si c'est le cas, bah même si ça peut être difficile, peut-être qu'il faut prendre du recul avec ces personnes. Et je pense qu'on pourrait probablement aussi entendre ici un avertissement sur un mariage avec un non-chrétien. Si vous n'êtes pas marié et que vous réfléchissez à entrer en relation avec quelqu'un qui ne partage pas votre foi, bah, écoutez. Ce verset nous dit de ne pas être en partenariat avec les ténèbres et... Voilà, si on se met en couple avec quelqu'un qui ne partage pas notre foi, bah, quelle influence sur nous? Voilà, comment est-ce qu'on peut vivre cet équilibre déjà, c'est difficile de résister aux ténèbres, disons, dans notre vie de tous les jours. Si on se marie avec quelqu'un qui ne partage pas notre foi, quelle difficulté supplémentaire. Mais Paul va nous inviter à une deuxième action, au verset 11. Donc après avoir parlé plus, on va dire, des personnes dans les ténèbres, il va nous parler des œuvres stériles des ténèbres. Il va nous inviter à ne pas nous y associer, mais de les dévoiler. Et donc, bon, cette première partie, voilà, on revient sur quelque chose qu'on comprend bien. On est dans la lumière, il ne faut pas, voilà, participer à ce qui relève des ténèbres. Il ne faut pas s'y adonner. D'autant plus que ces œuvres, comme il dit, sont stériles, sont vides de sens, n'apportent rien. Non seulement elles sont mauvaises, mais en plus, elles ne nous apportent rien. Je ne sais pas si vous prenez, certains d'entre vous prenez le bus. Des fois, on voit des petites affiches « On aime, on participe » où la RATP met en avant un concert, un spectacle, un événement, voilà, quelque chose, voilà, qu'ils ont vu, qui leur plaisait, et donc, je suppose que ce sont des pubs qui ne sont pas payées, mais voilà, ils affichent quelque chose parce que ça leur plaît. Et là, c'est peut-être un peu le contraire, et on comprend assez bien, si Dieu n'aime pas, on ne participe pas. Mais du coup, qu'est-ce que veut dire Paul quand il parle de dévoiler? De dévoiler ses œuvres des ténèbres. Dans d'autres traductions, vous verrez peut-être démasquer ou condamner. Donc, en tout cas, il y a cette idée de mettre en lumière ses œuvres. Et donc, est-ce que là, Paul parle de condamner le péché qu'on voit chez les non-croyants? Probablement en partie. Nous devons certainement prendre position contre certains péchés, notamment en refusant d'y participer. Globalement, notre rôle, cependant, reste d'annoncer le salut en Jésus, tout en ne cachant pas le fait du péché, le fait que les hommes sont pécheurs, puisque c'est ça qui nous sépare de Dieu et qui fait qu'on a besoin de Jésus. D'un autre côté, nous devons aussi dévoiler le péché par notre conduite sainte. Les gens, en nous voyant, doivent dire « Ah, ils agissent pas comme moi ». Mais Paul, je pense, s'intéresse aussi au péché que l'on verrait chez d'autres chrétiens. Des actes de ténèbres auxquels s'adonneraient des personnes qui pourtant sont dans la lumière. Et dans ces cas-là, nous devons reprendre notre frère ou sœur dans cette situation. Nous devons mettre la lumière sur ce qui ne va pas. Mais Paul va terminer cette pensée au verset 13 et 14 de façon rassurante. Le péché est révélé, oui, mais ce qui est dévoilé devient lumière. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ce qui est dévoilé devient lumière? Est-ce que ça veut dire que, tant que mon péché est connu des gens, c'est bon, c'est à la lumière? Non, ce que ça veut dire, c'est que un péché dévoilé, ça veut aussi dire repentance. Et après repentance, le péché est effacé. La lumière révèle, mais elle transforme aussi. Les non-croyants, les non-chrétiens qui se détournent de leur péché, en revenant vers Dieu, ils passent des ténèbres à la lumière. Ce qui était ténèbres devient lumière. Et les chrétiens qui se détournent de leur péché profitent de nouveau pleinement de la lumière. Et donc, Paul va appuyer sur cette transformation avec sa citation de la fin du verset 14, donc 14b. Je peux passer. Voilà. Ce passage, c'est probablement, peut-être, en tout cas, un cantique chrétien de l'époque, peut-être chanté au baptême, mais donc qui est inspiré de quelques passages dans Ésaïe. Mais du coup, ce cantique dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'illuminera. » Et donc là, voilà, on a ce message que si on se réveille et qu'on écoute l'appel de Christ, eh bien nous serons dans la lumière. En conclusion, si vous êtes dans les ténèbres aujourd'hui encore, si vous ne vous êtes pas tourné vers Dieu, prenez ce cantique pour vous et réveillez-vous. Dieu vous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Jésus est mort pour que vous ayez la possibilité de rejoindre cette lumière. Et si nous sommes dans la lumière, tu peux passer la slide là-dessus, hein. Si nous sommes dans la lumière, examinons-nous. Côté ténèbres, nous associons-nous avec des œuvres de ténèbres? Est-ce que nous cautionnons des actes mauvais? Ou est-ce que nous rejetons l'impureté et l'avarice dans notre vie? Côté lumière, est-ce que nous marchons pleinement comme des enfants de lumière? Est-ce que la bonté, la justice et la vérité nous caractérisent? Cherchons-nous à connaître ce que Dieu veut pour nous? Et Paul va continuer des versets 15 à 20 en décrivant d'autres aspects de la vie dans la lumière avec l'Esprit. Alors, nous en parlerons plus en groupe de maison cette semaine. Mais je vous propose de le relire ensemble avant de nous quitter et je vous laisserai quelques pensées. Veillez donc avec soin à la façon dont vous vous comportez. Il y a le passage dans le verset. Que ce ne soit pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ne soyez donc pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, il mène à la débauche. Au contraire, soyez remplis par l'Esprit. Parlez-vous par des cantiques, des hymnes et des chants spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours gloire, grâce pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à celui qui est Dieu et Père. Donc si nous sommes dans la lumière, veillons avec soin comment nous nous comportons. Et Paul, là, il termine cette partie avec deux autres contrastes. Le contraste de la sagesse et de la folie. Le contraste de l'ivresse et de la plénitude de l'esprit. Et que nous soyons sages et pas fous. Que nous soyons remplis par l'esprit et pas ivres, pas à nous adonnant à des passions, mais cherchons à vivre avec l'Esprit. Et voilà, veillons avec soin, à la façon dont nous nous comportons. Et je vous propose de prier pour terminer. Notre Père, merci parce que nous sommes aujourd'hui dans la lumière, si nous avons accepté ton salut. Merci parce que ta lumière éclaire tout ce qui est dans notre vie. Et voilà, s'il y a des zones d'ombre, tu nous les montres aussi. Tu nous transformes de jour en jour, toujours plus à ton image, grâce à ton esprit. Et Seigneur, je te prie que nous puissions vivre comme des enfants de lumière. Non pas comme si nous étions encore dans les ténèbres, mais illuminés par ta lumière. Et Seigneur, voilà, aide-nous à marcher dans la lumière, à marcher avec ton esprit, et que nous puissions porter des fruits en conséquence. Au nom de ton Fils, qui est venu et qui est mort pour nous.